Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
C'est un très bon coup de pouce. On va essayer de mettre un budget pour les vêtements aussi, comme tout le monde, se faire plaisir.
Un virement demain pour 4 millions de familles modestes, 150 euros plus 100 euros par enfant pour faire face aux conséquences du confinement.
Reportage et témoignages dans quelques secondes.
Des vacances pour l'été, le gouvernement annonce que nous pourrons partir. La SNCF saute sur l'occasion et lance ses réservations.
Tollé jusqu'à l'Elysée après les déclarations de Sanofi qui veut donner priorité aux États-Unis en cas de découverte d'un vaccin.
La réponse en exclusivité ce soir du patron de l'OMS en Europe.
Et dans ce journal de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, les conséquences psychologiques de 2 mois de confinement.
Et demain dans le monde, Donald Trump ne veut plus parler à la Chine. Le FBI accuse Pékin d'avoir espionné les recherches américaines.
La Chine cherche à voler nos connaissances pour développer ses compétences technologiques à nos dépens.
Enfin, et si on retournait au musée, visite à l'Institut Giacometti à Paris. Il rouvre demain, mais sous conditions.
Et Anissa, le temps avec vous.
Eh bien, toujours le même scénario, Nathalie, c'est-à-dire qu'au nord de la Loire, le soleil va briller demain sans aucun nuage. Au sud de la Loire, c'est bien plus compliqué, surtout sur l'extrême sud du pays, avec encore beaucoup de pluie et même des orages. Je vous donne tout le détail à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'était une promesse d'Emmanuel Macron, il va la tenir. Demain, une aide versée aux familles les plus modestes pour faire face au coût du confinement, entre chute de revenus et dépenses supplémentaires pour nourrir la famille. 150 euros plus 100 euros par enfant seront versés automatiquement aux bénéficiaires des minima sociaux. Jeanne Bergaoui, une aide attendue parce que le confinement a aggravé des situations de précarité.
Oui, en 2 mois, les revenus de ces familles se sont effondrés. Peu ou pas de chômage, des charges supplémentaires. Il faut faire déjeuner les enfants puisqu'il n'y a plus de cantine quasi gratuite. Alors je vous donne un exemple. Guy, la quarantaine. Il se présente comme précaire avec un travail à temps partiel à forte pénibilité, des horaires de nuit. Aujourd'hui, il n'a plus d'activité et touche 500 euros par mois, dit-il. Chaque sou est compté. Alors pour ce père de famille, cette aide exceptionnelle, c'est une très bonne nouvelle.
Ce petit apport substantiel que l'État va donner, ça va nous être d'un grand réconfort. C'est un très bon coup de pouce. On va essayer de mettre un budget pour les vêtements aussi, parce qu'on a l'habitude d'aller dans les vestiaires, comme tout le monde, se faire plaisir, pourquoi pas manger même resto. On ne peut pas aller dépenser 15 euros pour un plat. Non, c'est difficile de joindre les deux bouts.
Ces difficultés financières ont poussé Guy à se tourner pour la première fois vers les associations d'aide alimentaire. Depuis le début du confinement, pour pouvoir nourrir sa famille, il s'est rendu à 2 reprises aux distributions gratuites du Secours Populaire.
Un reportage de Jeanne Bergaoui, on en reparle après le journal. Mon invité ce soir, Jérôme Fourquet, politologue, également à l'IFOP, il nous accompagne, il répondra à mes questions.
Sauver le secteur du tourisme, c'est désormais une priorité nationale affichée par le gouvernement. Un plan de 18 milliards d'euros a été annoncé aujourd'hui après un comité interministériel. Le recours au chômage partiel sera autorisé jusqu'à la fin de l'année. L'accès au fonds de solidarité est lui prolongé jusqu'en septembre. Et surtout, le Premier ministre a ouvert la voie aux vacances d'été.
Eh oui, les Français pourront partir en juillet et en août en France, a précisé le Premier ministre, sous réserve de potentielles restrictions localisées en cas de cluster.
Les bars et les restaurants pourraient rouvrir dès le 2 juin dans les zones vertes. L'horizon se dégage donc et la SNCF ne perd pas de temps. Les réservations pour les trains de juillet et août seront ouvertes dès demain matin. Écoutez le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet.
Il y a une excellente nouvelle, les Français vont pouvoir partir en vacances dans toute la France et donc tous nos TGV et tous nos intercités sont ouverts à la vente pour que les Français puissent préparer leur voyage. 100% des TGV des intercités. Pour l'instant, nous avons fait le plan de transport, j'irais, habituel de tous les ans et donc nous nous adapterons s'il y a des nouvelles demandes. Mais pour l'instant, nous faisons un plan de transport, j'irais, équivalent à celui de l'année 2019. Et puis surtout, nous prenons l'engagement, celui que nous a demandé le Premier ministre. Tous nos billets seront échangeables et remboursables s'il apparaissait un épisode Covid-19 et gratuitement, bien évidemment.
Le patron d'SNCF Voyageurs, joint par Élise Dangean.
Sanofi a mis l'Europe au pied du mur hein, aujourd'hui et son directeur général Paul Hudson le répète ce soir. Il faut que l'Europe partage les risques, sinon les États-Unis auront priorité sur un éventuel futur vaccin.
Oui, en gros, il appelle l'Europe à mieux financer la recherche. La menace a déclenché un tollé jusqu'à l'Élysée. Emmanuel Macron recevra les dirigeants de Sanofi, qui est un laboratoire français, rappelons-le. Et au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hors de question que les Américains soient servis d'abord, répond ce soir sur Europe 1 le directeur Europe Hans Kluge.
On a lancé avec le directeur général Dr Tedros à Genève une grande initiative ensemble avec Madame la présidente de la Commission européenne Dr von der Leyen et aussi Monsieur Bill Gates, un engagement politique pour fournir accès équitable à tout le monde. Évidemment, c'est quelque chose de volontaire, mais on fait une coordination pour que tout le monde, surtout les vulnérables, auront l'accès au vaccin. Et ça, c'est très, très important. Parce que malheureusement, on a vu de nouveau, comme pendant les autres pandémies, que c'est surtout les vulnérables qui étaient affectés.
Le directeur Europe de l'OMS, interrogé par Sonia Mabrouk en exclusivité pour Europe 1, entretien qui sera diffusé demain à 8h15 dans la matinale de Mathieu Béliard.
Un vaccin qui sera prêt au mieux dans un an, hein, estiment les autorités européennes.
En attendant, l'épidémie continue de surmobiliser les soignants, déjà débordés habituellement. Un chiffre, les internes en médecine travaillaient 58 heures par semaine en moyenne avant que la crise ne débute. C'est ce qu'estime leur intersyndicale et ce volume a évidemment considérablement augmenté depuis le début de l'épidémie. L'un des enjeux de ce déconfinement est de réussir le dépistage massif et immédiat lorsque de nouveaux cas apparaissent. De nouveaux centres sont en train d'ouvrir à Strasbourg, notamment c'est l'immense bâtiment vide du Parlement européen qui est utilisé. Arthur Mbaché a pu s'y rendre.
Donc je vais en fait enfoncer une espèce de coton-tige dans chaque narine l'une après l'autre.
Ceci n'est pas une conversation entre un lobbyiste et un eurodéputé.
Ça fait pas mal, mais c'est pas agréable.
C'est vrai que nous sommes au Parlement européen.
Il ne faut pas secouer la tête, il ne faut pas mettre la main pour m'empêcher de réaliser le geste.
Mais nous sommes avec Christophe, infirmier dans un laboratoire strasbourgeois.
Et j'y vais, hein.
Et Laurent, émerveillé, coton-tige à peine sorti de la zone nasopharyngée.
Genre, on entend le Parlement, 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 c'est un truc qu'on n'y a pas accès à la base. Alors d'y pénétrer, c'est vrai que c'est nouveau.
Bonjour monsieur, venez.
Les surblouses, les masques, les écouvillons à la place des cravates, des tailleurs et des fourchettes. Bienvenue à la cantine du Parlement de Strasbourg.
Bon, tout ce qu'on a pu visiter, c'était tout de suite notre premier critère de choix, pas de moquette.
Pas de moquette, pas facile à trouver dans le cossu bâtiment strasbourgeois, dit Stéphanie Jégui de l'ARS.
La cantine, en termes de surface aseptisée, c'était quelque chose de pas compliqué en termes d'aménagement.
Ici sont reçus sur ordonnance les cas contacts repérés par les fameuses brigades de la sécurité sociale, uniquement des asymptomatiques qui ont donc fréquenté des malades. Pour accueillir les gens à l'extérieur, les pompiers intraitable sur les gestes barrières.
Vous avez une pièce d'identité ?
Oui.
Capacité théorique du plus grand centre de test Covid du Grand Est, 2400 patients par jour. Pour l'instant, c'est plutôt quelques dizaines. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et les députés européens, eux, pendant ce temps, ils sont en session, mais en vidéoconférence. Et à Paris, pour détecter de potentiels malades, des caméras thermiques ont été déployées à l'aéroport de Roissy aujourd'hui, à l'arrivée des passagers.
Et à Marseille maintenant, deux policiers ont été condamnés à 4 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir roué de coups un adolescent de 16 ans.
Un gardien de la paix et un brigadier chef, les faits remontent à un soir de février 2018. Et puis après 2 ans d'enquête sur l'assassinat de Mireille Knoll dans son appartement, le parquet de Paris retient le motif antisémite et réclame un procès aux assises contre 2 suspects.
Les petits musées peuvent rouvrir après le déconfinement à Paris. En tout cas, le choix est assez limité, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y en a 2.
Le musée de l'illusion qui a déjà rouvert et à partir de demain, l'Institut Giacometti dans le 14e arrondissement. Une ouverture sur réservation et qui sera donc très encadrée. Diane Chenouda, vous avez déjà pu faire la visite.
Oui, devant l'entrée de ce petit musée de quartier, des marquages au sol rouge indiquent la distance à respecter, 1,50 m entre chaque visiteur. Et à l'intérieur, derrière une paroi en plexiglas, un agent d'accueil avec masque, gants et visière scannera votre billet sur smartphone pour éviter tout contact. Catherine Grenier est la directrice de l'Institut Giacometti.
Il faut s'inscrire sur notre site internet et il faut avoir un masque puisque nous demandons aux visiteurs de venir avec un masque. Nous inscrivons 10 personnes toutes les 20 minutes. Elles trouvent un agent d'accueil qui ensuite va leur demander de se passer les mains au gel hydroalcoolique.
Les visiteurs ne pourront pas être plus de 3 dans une salle et ils devront bien sûr garder leur masque sans rien toucher. des salles chacune équipée de gel hydroalcoolique. Mais pour la directrice, ce sera une joie de les voir enfin déambuler dans le musée.
Je pense que c'est très important. Ça permet aussi d'entrer en relation avec un artiste, d'oublier pour un moment le coronavirus.
C'est déjà complet pour demain, mais il devrait y avoir encore quelques places pour ce week-end. C'est gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants, qui sont assez nombreux, 20% environ, à avoir réservé un créneau.
Voilà pour le retour timide de la culture à Paris. Diane Chenouda, les visites pour l'instant limitées à 4 jours par semaine à l'Institut Giacometti. C'est simplement du jeudi au dimanche.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Et à suivre dans votre édition de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, les conséquences psychologiques du confinement.
Et demain dans le monde, les Américains accusent la Chine d'espionner leurs recherches sur le virus.
Sur Europe 1, c'est la suite du journal de 19h avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Et on s'intéresse à l'actualité de demain. On prend un ton d'avance, Nathalie.
Oui, avec Demain en France. Bonsoir Jean-Pierre Montanet, bienvenue.
Et, bonsoir Nathalie.
Ça nous guettait, j'ai envie de dire. Hein, la pandémie qui risque bien de provoquer à terme une autre crise de santé psychique cette fois.
Oui, 60 jours presque de confinement, ça va laisser des traces. Tout le monde ne s'est pas épanoui en cuisinant des cookies. Pour beaucoup, c'était une source d'anxiété. Pour les plus vulnérables, une torture morale, apaisée par la consommation en hausse de tabac, d'alcool ou d'anxiolytiques. Entre quatre murs, Nathalie, tout est hypertrophié. La solitude, la douleur du deuil, l'angoisse d'être contaminé, les violences conjugales qui ont explosé dans ces huis clos confinés.
Et le déconfinement peut lui aussi être compliqué à vivre ?
Paradoxalement, c'est même parfois plus dur psychiquement, m'a dit le psychiatre Serge Effès. Pendant le confinement, l'idée de destin commun, de solidarité a pu créer du lien social. Dans le traumatisme, Sébastien, on mobilise toutes ses défenses. Mais depuis le 11 mai, tout s'est effondré. Pour certains, il l'a constaté dans son cabinet. Émergent alors les angoisses personnelles, liées à une vie de couple malmenée par trop de promiscuité ou aux incertitudes du monde d'après, avec le spectre du chômage.
Et alors justement, à ce moment-là, quels deviennent les impacts sur la santé mentale ?
La capacité de résilience va dépendre des individus. Ces stress post-traumatiques peuvent être la source, selon Serge Effès, d'angoisse, d'insomnie, de cauchemars passagers, mais aussi, plus grave et plus long, de périodes de dépression, de tentations suicidaires, de phobies. Aujourd'hui, certains angoissent à l'idée de revoir du monde. C'est peut-être ça, Nathalie, la deuxième vague. Des troubles psychiatriques en grand nombre, alors que les services spécialisés manquent de moyens et d'effectifs. Tiens, ça n'a pas changé.
Ouais, effectivement. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. C'est pas super réjouissant. Merci, à demain.
Le bilan quotidien de l'épidémie ce soir, la mortalité à nouveau à la hausse. 351 morts enregistrés ces dernières 24 heures, mais la pression sur les services de réanimation continue, elle, de baisser. À l'étranger, le ton monte entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump ne veut plus parler à Xi Jinping. Très déçu, dit-il, de son attitude sur cette pandémie. Dernier épisode en date, le directeur du FBI accuse Pékin d'espionner les recherches américaines sur un vaccin.
La Chine cherche à voler nos connaissances pour développer ses compétences technologiques à nos dépens. Et nous avons plus de 1000 enquêtes en cours qui pointent presque toutes vers la Chine.
Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Demain dans le monde, c'est une accusation très grave. Elle vous paraît sérieuse ?
En tout cas, elle est sérieusement documentée, puisque, outre la mise en garde publique à destination des chercheurs, le directeur du FBI a présenté au sénateur de la commission du renseignement une étude complète sur les activités chinoises qui fait vraiment froid dans le dos parce qu'elle décrit par le menu toutes les nouvelles formes de collecte d'informations mises en place par les services chinois en dehors des champs traditionnels de l'espionnage. Alors évidemment, il y a le piratage informatique qui s'est développé de manière exponentielle et qui explique les chiffres avancés de plus de 1000 enquêtes en cours avec la mise en place en Chine de véritables campus pour hackers, alors qui ne sont pas directement des agents du gouvernement mais qui sont orientés dans leurs opérations par des officiers traitants qui, eux, agissent sur ordre de leur structure. Et sur les affaires de Covid-19, on a effectivement vu se multiplier les tentatives de pénétration des serveurs des laboratoires les plus en pointe, et pas seulement aux États-Unis. Il semble également que certains chercheurs ou des étudiants travaillant dans leurs équipes sur des tests cliniques se soient fait approcher par des stagiaires chinois dans leurs universités ou dans leurs instituts.
Ça peut révéler du simple échange scientifique.
Oui, alors au cas par cas, tout semble parfaitement normal et ça s'apparente effectivement à un échange intellectuel parfaitement légitime. Là où ça se corse, c'est quand ça devient un système qui tourne au pillage et surtout quand l'information ne circule qu'à sens unique. Et c'est visiblement cela qu'a voulu dénoncer le directeur du FBI.
C'est très le bureau des légendes, votre histoire ce soir.
Merci
François.
Ça, ouais.
À demain.
À demain.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. On se retrouve à 19h30. Anissa, ça pleut toujours dans le sud?
Oui, effectivement Nathalie, beaucoup de pluie encore demain dans le sud des Pyrénées jusqu'aux Alpes du Nord, en passant par le Languedoc-Roussillon, les Cévennes, la vallée du Rhône, la Provence et les Alpes. Le ciel est très couvert demain, avec dès le début de journée des averses soutenues en Occitanie et dans les Alpes-Maritimes, avec même des coups de tonnerre. De la Gironde à l'Alsace, là le temps reste sec, mais le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Et puis au nord de la Loire, même scénario que depuis le début de la semaine. De la Bretagne jusqu'aux Ardennes, en passant par la région parisienne, les Hauts-de-France, le soleil brille demain dans un ciel complètement dégagé. Il va faire beau demain sur la moitié nord du pays. Les températures, elles sont stationnaires et toujours bien en dessous des normales de saison. 4 à Rouen demain matin, 6 à Paris, 8 à Besançon et Clermont-Ferrand, 12 à Toulouse et jusqu'à 16 pour Ajaccio. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 14 degrés à Saint-Étienne et Caen, c'est frais. 16 à Brest, 18 à Rennes et Limoges, 19 pour Paris, 21 à Marseille et la maximale, elle est pour Ajaccio avec 25 degrés.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec l'interview de demain dans un instant, Nathalie Lévy.
Oui, je reçois à la veille du versement de l'aide exceptionnelle de solidarité Jérôme Fourquet de l'IFOP. Ce confinement a-t-il creusé un peu plus encore la fameuse fracture sociale? Le politologue Jérôme Fourquet est mon invité.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Demain sera donc versée par la CAF l'aide exceptionnelle de solidarité à plus de 4 millions de Français. Vous recevez le directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet.
Bonsoir Jérôme Fourquet, vous êtes également politologue et auteur de l'Archipel français aux éditions du Seuil. Bienvenue.
Bonsoir, merci.
Bonsoir, bienvenue. Cette aide, Jérôme Fourquet, cette aide exceptionnelle de l'État, est-ce qu'elle arrive au bon moment?
Oui, bien évidemment, puisque on a vu que avec la mise à l'arrêt de l'économie, toute une frange de la population française qui était, si je puis dire, juste au-dessus du niveau de flottaison en temps normal, est passée sous le seuil de pauvreté. On a vu les files d'attente augmenter très très fortement et spectaculairement devant les soupes populaires organisées par les Restos du Cœur, le Secours catholique ou le Secours populaire. On a vu aussi des associations s'organiser spontanément dans certaines banlieues pour apporter de la nourriture aux plus démunis. On a eu des retours par ailleurs sur des difficultés posées par l'arrêt des cantines scolaires par la force des choses dans certaines familles, avec ces repas à la cantine qui constituaient dans certains ménages souvent le repas
le seul repas complet de la journée
offert aux enfants. Donc il ne faut pas noircir le trait. Quand on compare notre pays à beaucoup d'autres pays, nous avons un modèle de protection sociale qui est très efficace, mais pour toute une partie de la population, ce confinement et cette mise à l'arrêt de l'économie a été une très douloureuse affaire. Ouais. Et donc,
mais vous nous dites, elle arrive au bon moment, elle n'aurait pas dû arriver un peu plus tôt alors que le confinement a été déclaré il y a plus de 2 mois?
Alors, on peut toujours critiquer et penser qu'on puisse faire plus vite. Après, vous voyez les sommes qui sont en jeu, mais aussi toute la logistique qu'il y a à mettre en place. On peut penser que les personnels qui travaillent dans les caisses d'allocation familiale, ils vont verser ces prestations. Beaucoup étaient en télétravail, par exemple. Mmh. Et donc, c'est progressivement que les choses sont en train de se mettre en place.
Alors justement, cette aide, est-ce qu'elle est de nature, ce coup de pouce, est-il de nature à soutenir véritablement les foyers les plus pauvres? Est-ce qu'on n'est pas dans l'ordre uniquement du symbolique? Alors, elle fait sens pour de nombreux ménages?
Quand vous êtes dans ces situations-là, toute aide est bonne à prendre. C'est-à-dire qu'on est, comme le dit la formule, on est à l'euro près. Et donc, quelques centaines d'euros qui tombent comme ça, ça permet de faire la soudure, de remplir le frigo pendant quelques semaines. Alors, bien évidemment, ce n'est qu'un pansement. Il va falloir prendre le relais. Il faut rappeler aussi que cette aide est une aide exceptionnelle qui va sans doute et manifestement se cumuler avec les aides déjà existantes. Et puis, il y aura ensuite d'autres sources d'aides qui, sans doute, seront mobilisées de la part des collectivités locales, des conseils départementaux qui gèrent le RSA, les municipalités, les associations. Et donc, il y a sans doute, évidemment, tout un gros travail d'accompagnement et de soutien à mettre en place, manifestement, pour de très longs mois, car la mise à l'arrêt de l'économie va se solder par une hausse du chômage tout à fait spectaculaire et la fragilisation de très nombreuses familles.
Mais bien sûr, alors vous en parlez, le confinement, il a accru les inégalités. Le déconfinement est-il de nature à les amoindrir?
Alors, on peut prendre secteur par secteur. Si on quitte le champ de la pauvreté stricto sensu, et c'est un domaine qui est très important, celui de l'école. Il a été beaucoup question des fameux décrocheurs. On peut penser là que pendant deux mois sans école, la fracture éducative, là, c'est manifestement accru entre les enfants dont les parents ont pu s'occuper pendant ces deux mois et qui ont été suivis, et puis les autres. Donc c'est pour ça que le ministre de l'Éducation et d'autres membres du gouvernement ont plaidé pour un retour le plus rapide possible à l'école, parce que toutes les remontées de terrain dont ils devaient être en possession indiquaient que les choses ne tournaient pas forcément dans le bon sens. Pour ce qui est des inégalités économiques et sociales, rappelons aussi les choses, la situation va être très dure, mais le gouvernement a mis en place le chômage partiel qui s'est appliqué à 12 millions de salariés, c'est colossal, ça a fait de l'État le plus gros employeur de France, et ce dispositif-là est un dispositif parmi les plus généreux au monde. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, le chômage a explosé dès les premières semaines de l'épidémie. Pour l'instant, il a été contenu chez nous, mais sans doute que les difficultés s'annoncent pour demain.
Du coup, Jérôme Fourquet, si on regarde tout ça, alors bien sûr, on a parlé des inégalités scolaires et on l'avait déjà mentionné, avec peut-être même parfois des conséquences sur le moyen, voire sur le long terme. Globalement, le niveau de vie des Français, suite à cet épisode terrible du Covid et à ce confinement, peut-il baisser sur le long terme au regard, des licenciements qu'il y a pu avoir pendant cette période, au regard de cette période de chômage? Est-ce qu'il peut baisser sur le long terme ou est-ce qu'il est trop tôt pour le dire?
Alors, il y a deux choses à distinguer. L'effet direct sur le pouvoir d'achat des ménages de ces deux mois d'arrêt. Il a, pour une grande partie de la population, été relativement bien absorbé, du fait notamment de cette mise en place du chômage partiel, qui a permis de couvrir jusqu'à 84% du salaire. Et dans certaines entreprises, les employeurs ont mis au pot pour que il n'y a pas de perte de salaire. Donc, certains ont perdu leur emploi, je pense à des saisonniers, à des intérimaires, mais la grande masse de la population, pour l'instant, n'a pas encore eu à ressentir les effets économiques de cette épidémie. On constate, par exemple, et c'est très important, que le taux d'épargne et la masse d'argent épargné a considérablement augmenté dans ces deux mois. Donc, il y a des réserves qui ont été faites, que par la force des choses aussi,
les Français n'ont pas pu consommer,
ne pouvaient pas consommer. Là où les choses vont être sans doute plus critiques, c'est les conséquences induites de ces deux mois de mise à l'arrêt de notre économie. C'est maintenant que nous allons voir les dégâts, un peu, vous savez, comme quand le tsunami se retire après une tempête et qu'on voit sur le chemin de son retrait quelle est l'ampleur des dégâts. C'est maintenant que nous allons constater tout cela. La saison estivale arrive, par exemple, pour ne prendre que ce cas-là, vous avez des régions entières où toute une partie de la population, là aussi qui est relativement modeste, compte sur les emplois de saisonniers pour se renflouer et passer une bonne partie de l'année sur les réserves qu'elles vont constituer pendant ces trois mois de vacances. Là, ça va être compliqué. C'est plus à long terme que ça va se dégrader.
C'est plus à long terme. Mais bien sûr, il y a des aides et il va y en avoir aussi de manière plus régionale, etc. Mais l'aide la plus efficace n'aurait-elle pas été de relancer l'économie vivement et d'autoriser la reprise complète du travail, j'allais dire immédiatement, même si les conditions sanitaires sont évidemment à respecter, mais une relance de l'économie autre. Bien sûr, on soutient des secteurs et notamment le secteur du tourisme, on l'a vu, mais refaire partir pour être moins dans cette notion d'état providence XXL.
C'est l'espèce de ligne de crête ou de quadrature du cercle à laquelle s'est livré le gouvernement, mais il doit tenir compte d'un paramètre. Alors nous travaillons avec un institut de sondage qui est un paramètre important, qui est celui de l'état de l'opinion. L'opinion publique aujourd'hui, c'est un sondage que nous avons réalisé pour le cabinet NOCOM il y a quelques jours, oscille et est tiraillé entre deux craintes, la crainte sanitaire et la crainte économique et sociale. C'est ça. La catastrophe économique et sociale qui s'annonce est très clairement perçue et intégrée par nos concitoyens. Mais à l'heure où on se parle, ils sont davantage encore inquiets pour les questions sanitaires. Et donc, si tant est que le gouvernement ait annoncé un redémarrage plus rapide de l'économie, encore aurait-il fallu que les salariés se rendent sur leur lieu de travail. Vous avez vu que dans certaines entreprises, l'usine Sandouville de Renault, ce qui s'est passé par ailleurs chez Amazon, on a aujourd'hui une partie des syndicats, mais pas uniquement au nom des jeux syndicaux, sans doute en résonance avec ce que pense une partie des salariés, notamment dans les secteurs les plus exposés au risque de contamination, parce qu'on est sur des collectifs de travail importants. Oui. Eh bien, toute une partie de cette population d'employés et d'ouvriers aujourd'hui est encore très inquiète face au risque épidémique. Cette inquiétude, ce degré d'inquiétude très élevé a permis, au moment du confinement, de faire en sorte que le confinement soit respecté. Mais aujourd'hui, cette peur, elle tétanise encore une partie de nos concitoyens. Ouais. Elle va peser encore de longues semaines avant sur le redémarrage de l'économie.
Vous diriez quand même qu'avec cette crise, les inégalités sociales nous ont sauté à la figure et vont continuer de nous sauter à la figure, d'un mot ?
Alors, la crise du Covid et le confinement a joué le rôle de révélateur d'inégalités qu'on connaissait. On a parlé des inégalités scolaires. On pourrait prendre le cas aussi des écarts entre ceux qui ont été contraints de continuer d'aller travailler sur leur site de travail habituel et ceux qui ont pu télétravailler à l'abri depuis chez eux. Donc, c'est un effet de... Et puis, pour ce qui s'annonce, bien évidemment, si le chômage repart à la hausse, si certains secteurs ou certaines catégories de salariés sont plus durement touchés, eh bien évidemment, mécaniquement, cela aura eu comme effet d'accroître ces inégalités.
Merci beaucoup, Jérôme Fourquet, pour votre analyse ce soir sur Europe 1. Merci.
Merci à vous. Europe 1. Bon courage.
Et la suite de votre grand journal sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy.
Oui, dans un instant, on va continuer à parler tourisme, bien sûr, pendant une demi-heure ensemble. On va s'intéresser à l'avenir du secteur, comment vous réagissez aux annonces d'Edouard Philippe. Vous avez la parole, comme tous les soirs, 3921, hashtag Radio Ouverte.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
L'épidémie est toujours meurtrière, un chiffre à la hausse ce soir, 351 décès ces dernières 24 heures. Mais la pression continue de baisser sur les services de réanimation, 129 patients de moins. Il reste tout de même près de 2300 cas graves sur 20 400 malades hospitalisés. Y aura-t-il une ruée sur les trains de l'été ? La SNCF ouvre ses réservations pour juillet-août dès demain matin, après que le gouvernement a annoncé que les départs en vacances seront permis en France. Les bars et restaurants pourraient rouvrir en zone verte dès le 2 juin. À retenir aussi ce soir, le directeur général de Sanofi réitère sa menace de donner priorité aux États-Unis si un vaccin est trouvé. Il appelle l'Europe à partager les risques. Aucun résultat à ce stade pour l'étude Discovery sur les potentiels traitements, dont l'hydroxychloroquine, à cause notamment de ratés dans la coopération européenne. IKEA devant la justice pour avoir espionné salariés et clients. Plusieurs anciens dirigeants de la filiale française du géant suédois sont renvoyés en correctionnel. Et puis en Formule 1, le mercato chez Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz a signé avec la Scuderia pour 2021 et 2022. Il succédera à l'Allemand Sébastien Vettel à la fin de l'année.
Merci Sébastien, vous revenez demain pour de nouvelles infos dès 18h à Nice. Du côté du temps, c'est pas encore gagné.
Non, c'est pas encore gagné, surtout dans le sud. Hein. On a vraiment un printemps très pluvieux, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur. Nous avons des pluies demain qui prendront un caractère orageux dans l'après-midi. Donc sur tout l'extrême sud du pays, c'est parapluie obligatoire. Et puis plus on remonte, plus le ciel va s'éclaircir. De la Gironde jusqu'au sud de l'Alsace, en passant par l'Auvergne, là c'est gris. Hein. C'est un ciel qui se partage entre éclaircies et nuages. Et puis au nord de la Loire, comme depuis lundi, c'est une très belle journée. Ce sera la plus belle journée de la semaine d'ailleurs, avec un ciel complètement dégagé et de très beaux rayons de soleil. Attention tout de même, le département des Landes, toujours placé en vigilance orange pour crue. L'Ami 12, hein, qui connaît une crue exceptionnelle, notamment du côté de Mont-de-Marsan. Donc, grande prudence dans ce secteur, toujours en vigilance orange.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, et on va s'intéresser jusqu'à 20h à l'avenir du secteur du tourisme. Après les annonces d'Edouard Philippe à la mi-journée, on vous attend bien sûr pour réagir, pour témoigner, pour poser vos questions. Ça se passe au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Et on est avec Philippe Gloguen, bonsoir. Bienvenue, vous êtes fondateur du Rotard, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alain Capestan également, bonsoir à vous. Directeur général de Voyageurs du Monde, bonsoir. Vous m'entendez certainement. Voilà. Bienvenue à vous. Alors, déjà, votre sentiment après ces annonces d'Edouard Philippe à la mi-journée, ce plan Marshall véritablement pour le secteur du tourisme, et puis une perspective, juillet et août, les vacances seront possibles et pas uniquement là dans une zone a priori de 100 km. Comment avez-vous perçu tout cela, Philippe Gloguen, Alain Capestan?
Alors, déjà, les 100 kilomètres n'ont pas sauté, n'ont pas disparu.
Et pas ça, pour l'instant, mais quand il nous dit qu'on peut prendre des billets de train à partir de demain et quand on sait que les réservations sont ouvertes, ça donne un petit peu de perspective.
Que les hôteliers sachent un peu où ils vont. Je vais vous dire une chose sur les 100 kilomètres. Pour moi, c'est le grand problème actuel. Nous avons des dizaines de milliers d'hôtels en France qui sont bientôt en quasi-faillite à cause des 100 kilomètres. Je vous explique. La zone de chalandise, c'est-à-dire la zone où on trouve, où les hôtels ont leurs clients, est au-dessus des 100 kilomètres. Tout simplement parce que si vous habitez par exemple Fontainebleau, vous avez un rendez-vous à Paris, vous n'allez pas dormir à Paris le soir, vous pouvez rentrer chez vous. Donc la clientèle d'un hôtel parisien, elle habite Marseille, elle habite Lyon ou à l'étranger. Si on a toujours l'interdiction de franchir les 100 kilomètres, eh bien, c'est quand même une épée de Damoclès.
Alors, je lui ai posé la question à plusieurs reprises à Jean-Baptiste Lemoine, je lui ai posé la question à plusieurs reprises en lui disant est-ce qu'on peut envisager même les Parisiens sur la Côte d'Azur cet été. Il botte plutôt en touche, mais les signaux ont l'air d'être plutôt dans le bon sens. Alain Capestan, directeur général de Voyageurs du Monde, on n'a pas tous les détails, évidemment, on n'a pas toutes les normes non plus pour les hôtels. On a quelques éléments nouveaux aujourd'hui qui quand même sont de nature à vous rassurer.
Alors oui, c'est en demi-teinte en même temps, hein. C'est-à-dire qu'il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'effectivement, il semblerait qu'on puisse partir en voyage en France, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle, ainsi que dans les dom-toms.
Et en métropole et outre-mer, voilà, il l'a dit.
En outre-mer également, c'est clair, mais par contre, sur l'étranger, pour le moment, ça semble pas être le cas. Y compris,
on parle du 15 juin pour la France et certains de nos voisins européens pour les frontières.
C'est ça, et y compris sur Schengen, où là, moi je m'attendais quand même à une ouverture un peu plus franche, et une ouverture que nous n'avons pas eue. Après... C'est clair aussi que le gouvernement envoie un message fort à une profession qui en a quand même besoin, c'est-à-dire, d'un point de vue financier, il y a un soutien indiscutable et indéfectible. Je crois que là, il faut remercier le gouvernement sur ce sujet-là. Maintenant, question pour nous, les voyagistes, par exemple, le chômage partiel au-delà du 30 septembre, il se passe quoi? Or, on sait qu'on ne redémarrera pas l'activité cet été, puisque ça vient d'être dit. Les exonérations de charges limitées aux très petites entreprises, bah oui, mais il n'y a pas que des très petites entreprises, donc c'est un sujet aussi. Et enfin, alors là, il y a un sujet clé, ce sont les bailleurs, notamment institutionnels, qui détiennent des locaux, dans lesquels nous devons, nous, continuer à verser des loyers, alors que nous n'occupons pas les espaces, bien entendu, puisque nous avons soit été confinés, soit par solidarité, bien entendu, nous avons organisé du travail partiel. Et là, il y a de nouveau un vrai sujet.
Alors, on va prendre également Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie et de plein air, donc les campings. Hein. Bonsoir, bienvenue sur Europe 1.
Oui, bonsoir.
Est-ce que ce soir, vous avez le sentiment que ça y est, vous avez avancé d'un pas, même d'un grand pas, ou finalement parce qu'on n'a pas encore vraiment les normes sanitaires que vous allez devoir mettre en place dans vos établissements, vous dites bon bah ok, il y a des choses, mais le compte n'y est pas, on voit pas clair.
Alors c'est vrai que on a participé à ce conseil interministériel du tourisme dans l'idée d'avoir, alors sans doute pas la date d'ouverture, puisque le président de la République nous avait déjà dit il y a 15 jours qu'il ne pourrait pas donner la date avant la fin du mois de mai, ce que nous a confirmé le Premier ministre ce matin, mais on s'attendait à avoir les conditions de réouverture. puisque pour pouvoir relancer les réservations et pour pouvoir tout simplement finir de préparer les campings, c'est assez pratique, bah c'est ça, mais c'est important, encore faut-il connaître les règles du jeu. Alors, malgré tout, on avance, parce que le protocole sanitaire, notre projet, notre deuxième projet d'ailleurs, parce qu'on en a déposé deux au total, a eu un retour de la Direction Générale de la Santé il y a quelques jours, on l'a intégré, on a redéposé la version hier, mais on n'a pas la
Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes? Parce que nous, auditeurs, futurs vacanciers, etc., ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le protocole sanitaire, par exemple? Parce que dans vos campings, il y a forcément une piscine, dans certains d'entre eux en tout cas. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour ce type d'espace ou pour les mini-clubs, enfin les clubs enfants, etc.?
Alors c'est un peu délicat parce que c'est pas encore arbitré, donc ce que je vais vous dire va sans doute être faux, mais déjà ce qu'il faut dire sur le plan sanitaire, c'est découpé en deux morceaux. Vous avez la première partie qui concerne la protection des salariés, qu'on appelle les fiches métiers, qui sont plutôt préparées par la Direction Générale du Travail au ministère du Travail, et puis il y a ce qu'on appelle donc le protocole sanitaire, la charte sanitaire, qui se concentre plutôt sur le parcours client, depuis l'entrée dans le camping avec toutes c'est les ça. Activités. Il est clair que en ce qui concerne les hébergements, les blocs sanitaires, on va être sur des process de désinfection en particulier.
D'accord.
Avec du matériel pour le personnel, des blouses, bien etc., sûr. Avec des produits particuliers, insister sur les espaces, de frottement importants, fermer certains objets. Par exemple, dans le bloc sanitaire, quand vous avez des urinoirs en côte à côte, eh bien, ils seront soit condamnés, soit un sur deux. Avec il y aura un sens de circulation, il y aura du matériel mis à disposition des clients. Après, sur la question animation, il est clair que les animations cette année vont être très différentes des animations habituelles et sans doute qu'une partie d'entre elles vont être tout simplement annulées. On travaille d'ailleurs sur les animations de remplacement qui pourraient intervenir. Il y a aussi un nombre de personnes.
Mais attendez, pardonnez-moi, je vous repose quand même la question parce qu'elle est importante pour les auditeurs. Les piscines, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer qu'elles soient régulées par une gestion horaire de flux? Et les clubs enfants? Alors, répondez-moi sur ces deux points et puis on va se retrouver après la pause.
Non, non, tout à fait. Sur les piscines, clairement, ce qui nous donne du baume au cœur, c'est que le ministère des Sports a travaillé sur un protocole qui permet l'ouverture des piscines. C'était la première question parce qu'on entendait dire il n'est pas possible d'ouvrir les piscines. A priori, c'est possible. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir limiter la fréquentation des piscines. Peut-être par un nombre de personnes minimum au mètre carré, en nombre de mètres carrés à définir.
D'accord. Okay. Alors, on va se retrouver dans un petit instant avec vous et puis avec également d'autres hôteliers et restaurateurs, les auditeurs qui nous appellent au 3921. On est un peu partout en France avec eux d'ailleurs. À tout de suite sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy et vos invités. Nathalie, on s'intéresse à l'avenir du secteur du tourisme. Après les annonces d'Edouard Philippe, vous pouvez continuer à réagir bien sûr et nous rejoindre au 39-21. Et on est avec les auditeurs. Bonsoir Mathieu. Vous nous appelez ce soir de Paris où vous tenez une agence touristique. Bonsoir à vous, bienvenue.
Je précise, donc une agence de guide touristique.
Très bien, une agence de guide. Donc avec des étrangers, forcément, ce qui est une denrée rare aujourd'hui, très rare. Comment vous faites aujourd'hui? Dans quelle situation êtes-vous et avec quelle perspective?
Une situation catastrophique, Nathalie, puisqu'on est à l'arrêt total depuis deux mois, pardon, et que je suis gérant de ma société, donc non salarié, donc les aides sont très, 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 très en deçà de ce qu'il faudrait par rapport à l'aspect dramatique et cataclysmique de la situation qu'on connaît, parce qu'on n'a pas de ralentissement. Là, on a une activité brutale,
totale.
C'est un peu comme si je vous disais ce soir, Nathalie Lévy, demain, vous me rendez votre carte de journaliste, votre carte de presse, vous rompez tous vos contrats de travail et vous restez chez vous jusqu'à nouvel ordre. C'est exactement ce que je vis en ce moment. Donc, c'est vraiment très dur. Et pour moi, la coupe est pleine. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, pour moi, c'est trop peu. Et trop tard.
Peu, c'est-à-dire, comment ça trop peu? Parce qu'on a des sommes qui sont considérables, un total de 10 milliards d'euros. C'est mal réparti? C'est pas suffisant? Qu'est-ce qui...
18 milliards d'euros qui vont aller à qui et dans quelles conditions? Je demande à voir, vous voyez. C'est quand on balance des milliards comme ça, après, est-ce que la théorie du ruissellement va me faire que moi, je suis un tout petit entrepreneur, j'ai 7 salariés et j'ai une toute petite structure. Est-ce que ces milliards vont ruisseler jusqu'à moi? J'en doute un
petit peu.
Est-ce
que l'exonération des cotisations, déjà, vous avez pu en bénéficier?
Oui, je peux en bénéficier. J'ai mis mes salariés au chômage. Mais à la limite, eux sont mieux lotis que moi, parce que moi, en tant que gérant majoritaire non salarié, c'est très très dur, c'est très compliqué. Et ce que je trouve dommage, c'est que le gouvernement s'est arrêté en septembre sur ces aides-là, en ayant l'impression que pour eux, en septembre, tout va rentrer dans l'ordre. Mais même si les frontières rouvrent en septembre, il va y avoir un délai de carence, un délai de latence.
Avant que les touristes ne reviennent.
On ne peut pas revenir tout de suite. Donc, il faudrait nous accompagner. Moi, j'aurais dit, la saison touristique, elle est foutue jusqu'en décembre.
Du coup, Mathieu, je vous pose la question. Je vous pose la question, du coup, très franchement. Comment vous imaginez les choses? Vous imaginez vous réinventer, modifier votre proposition, votre offre, ou Ouais, très concrètement, j'imagine que vous avez pensé à demain.
Tout va dépendre, Nathalie, des aides. Si les aides sont à la hauteur de la situation dramatique que je vis, me permet de tenir le temps que ça reprenne. Je ne peux pas me réinventer. Ouais. J'ai 50 ans passés, ça fait 25 ans que je fais ça. Ouais. Et c'est je suis passionné par mon métier. Ouais. Donc, je ne voudrais pas devoir me réinventer. Et ça serait très compliqué. Donc, j'espère que l'État sera au rendez-vous.
Merci, on vous souhaite bon courage, évidemment. Et revenez nous voir, revenez nous en parler sur Europe 1. Denis, également, depuis les Deux-Sèvres. Bonsoir à vous, Denis.
Bonsoir à vous.
Bienvenue, vous êtes dans l'hôtellerie, vous, et l'événementiel. Et l'événementiel, c'est ô combien difficile, évidemment, dans ce secteur-là aussi, aujourd'hui. Vous avez entendu les annonces du Premier ministre. Ça vous apporte un peu d'air?
Non, pas du tout, parce que ça arrive beaucoup trop tard. Il ne faut pas oublier que l'hôtellerie, restauration et puis l'événementiel, nous avons été arrêtés début mars. Hein.
Mais il y a eu les crédits accordés, il y a eu l'exonération des cotisations, il y a eu tout ça quand même. Oui, les crédits accordés, l'exonération, les reports de 12 mois des mensualités bancaires.
Mais là, vous avez raison, c'est valable pour les très grandes entreprises. Le problème, c'est que nous sommes un milieu où les entrepreneurs sont de petites entreprises, avec énormément de petites entreprises, et eux ont un mal fou au niveau dossier, au niveau suivi, pour pouvoir accéder à toutes ces formes d'aide, de subventions. Et puis, l'aide, il fallait la concevoir début mars, dès qu'on a fermé. On nous a demandé de fermer bien avant tout le monde. Hein. Je vous rappelle que les événements, l'hôtellerie, restauration, étaient la première corporation qui a été touchée. Ouais. Donc, il fallait faire un plan d'urgence dans la foulée. Et une fois de plus, on aurait peut-être pu éteindre l'incendie.
Mais alors justement, Denis, très concrètement, là, parce que l'hôtellerie peut fonctionner, l'événementiel probablement pas, ou alors vraiment à minima, est-ce que si vous repartez, même à petits pas, est-ce que vous pouvez relever la tête d'un mot?
Alors peut-être. Mais il aurait fallu déjà avoir un système de réouverture. Quand on a fait le déconfinement, il fallait qu'en zone verte, on rouvre les petits restaurants, les petits patrons. Il fallait dans un premier temps faire le zonage côté vert. Après, au mois de juin, faire le zonage côté rouge. Il aurait fallu faire ça progressivement parce que là, le problème, c'est qu'on va tous réouvrir en même temps pour beaucoup moins de clients. Merci. Donc l'offre, elle est multiple.
Donc ça va être très compliqué
pour
que c'est
clients,
la partager.
C'est dramatique.
Merci beaucoup.
Il y a un problème, Nathalie, dans notre métier.
Rapidement.
C'est que sur 2 millions d'emplois, il y a 500 000 personnes qui sont en contrat court. Oui, c'est-à-dire les journaliers, vous savez, les vacataires, intérimaires, saisonniers. Et ces gens-là ne rentrent pas dans le chômage partiel. Donc, vous voyez, un plan de 14 milliards qui ne concerne pas tous ces gens-là qui sont le cœur de métier de notre profession, il y a quand même un problème.
Bah oui, merci beaucoup en tout cas de votre appel et bon courage à vous, Denis. On en reparle avec vous tous, Philippe Loguen, Alain Capestan, Nicolas Daillot. Effectivement, les petites entreprises, les vacataires, ceux qui viennent pour une journée, etc., ce sont les oubliés de ce plan Marshall.
Oui, c'est clair, c'est toujours les plus fragiles qui tombent en premier. Mais vous savez, dans l'édition, nous avons un statut d'auteur et les écrivains n'ont pas le droit au chômage. Donc c'est un peu compliqué et il se trouve que Guy de Rota, eh bien, c'est le patron qui va prendre en charge les salaires pendant 6 mois.
Donc, Philippe Loguen, du coup, justement,
c'est pas toujours très simple.
Le guide du routard, c'est évidemment, je n'ose imaginer le nombre de pays, l'ensemble quasiment du monde que vous couvrez avec ces guides. Est-ce que là, vous vous réinventez, compte tenu de cette crise, sur la France précisément ?
Ah ben, on se réinvente d'urgence. La chance que nous avons, c'est que sur 160 titres en édition française, nous avons 60 titres sur la France. Toutes les régions sont couvertes et on sent d'ailleurs depuis quelques jours les libraires sont réouverts et on sent une appétence des libraires pour mettre en promotion et je les remercie tous les guides de routard
dédiés à notre beau pays, bien sûr. Alain Capestan, même question, et on va se retrouver dans un instant avec vous tous. Même question, vous, c'est voyageurs du monde, bien sûr, on connaît bien votre enseigne avec des formules extraordinaires, souvent pour des pays lointains. Là, du coup, vous imaginez prendre un virage?
C'est clair que ça interpelle sur la façon de voyager future. Alors, dans un immédiat proche, évidemment, puisque on ne peut pas partir à l'étranger, mais j'ai bon espoir que nous puissions y aller récemment. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la taille des entreprises. Il ne faut pas croire que, et Voyageurs du Monde fait partie du lot, il ne faut pas croire que ce métier est le fruit de grosses structures. Ça n'est absolument pas vrai. En fait, c'est une somme d'intermédiaires de l'agence de voyage de quartier, où il y a 2-3 salariés, en passant par le guide. Le monsieur qui parlait tout à l'heure est un guide, il a 7 salariés, c'est sur une petite structure. Vous avez des milliers d'agences de voyage en France. Les producteurs de voyage, qu'on appelle des tours opérateurs, quand ils dépassent 80 à 90 salariés, ce sont déjà de grosses structures en France. Les plus grosses, je rappelle, sont des structures étrangères, qui appartiennent à des grands groupes allemands, d'autres d'ailleurs à des groupes anglais, dont certains ont fait faillite l'année dernière. Mais le tissu que vous avez en France des voyagistes est un tissu de PME, voire de très petites entreprises, qui sont donc extrêmement fragiles et qui subissent de plein fouet cette crise.
Alors, on va y revenir avec vous tous dans un petit instant. Ce plan tourisme annoncé à la mi-journée, comment vous y réagissez? Les auditeurs aussi nous appellent au 3921. À tout de suite avec vous tous.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et jusqu'à 20h, on parle du secteur du tourisme après les annonces d'Edouard Philippe. Vous pouvez continuer à réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Et au 3921, comme l'a fait Christophe qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Vous êtes restaurateur et vous avez écouté attentivement Edouard Philippe. Vous avez repéré que pour l'instant, on tourne toujours autour de la date du 2 juin, mais on sera fixé la semaine du 25 mai pour une ouverture des cafés et des restaurants. Vous l'avez pris comment? Vous l'avez vécu comment?
Vous parlez du confinement?
Bah non, pas du confinement, mais de cette perspective. Et de cette perspective.
La perspective des réouvertures, bah on va voir. Moi, j'ai envie de vous dire, dans quel état d'esprit seront les gens, étant commerçants, comment vont-ils se comporter? Est-ce qu'il va y avoir un effet libération, entre guillemets, et tout le monde va vouloir ressortir? Ou alors, vu certaines mesures barrières et gestes barrières, etc., est-ce qu'à ce moment-là, sur le commerce, ça ne va pas avoir aussi un impact, même psychologique, de la part des gens? J'avais un ami en Australie, il m'a dit, lui, par contre, que les restaurants sont ouverts là-bas. Mais par contre, c'est des groupes de 10 dans les restaurants. Donc, vous faites une réservation avec 10 personnes. Vous privatisez en quelque sorte le restaurant. Et puis à ce moment-là, vous pouvez passer un bon moment. Mais par contre, si vous avez un établissement de 300 couverts et vous avez une réservation de 10 personnes, à un moment donné, vous avez un manque à gagner, quoi. Voilà.
Vous êtes plutôt pessimiste là sur la suite. Vous imaginez plutôt que les gens vont être apeurés?
Non, je suis réservé. Je suis assez réservé, si vous voulez. Je suis assez réservé. Après,
vous avez la possibilité, de faire une mise en place regard des normes qui seront plus claires dans les prochains jours. Possibilités.
C'est ce qui va se passer, Mais après, est-ce que c'est charmant d'avoir quelqu'un qui va venir vous servir à la table avec un masque? C'est normal, avec des gants, un masque, tout ça. Bon, je suis pas convaincu, quoi. Et encore, vous avez bien souligné que je viens donc du sud de la France, de Marseille. Mais j'imagine même pas les restaurateurs sur Paris, si vous voulez. Là, ils doivent s'arracher. Enfin, ils doivent se demander comment ils vont faire, parce que même si vous, si ça revient un petit peu à la normale, etc., même dans l'inconscient des gens, il y aura quand même un petit.
Alors,
moi, j'avais aussi très très envie. J'ai votre standardiste qui est très sympathique, Monsieur Jules. Moi, je voulais lui poser la question et j'aimerais bien qu'on pose la question. Les boîtes de nuit, les discothèques.
Ah, bien sûr. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas été évoqué. Vous avez raison.
C'est du tourisme, c'est très intéressant, aussi, finalement.
Ouais, complètement. Ouais. C'est complètement du tourisme. Merci, en tout cas, de votre appel. On vous souhaite bon courage. Bien sûr, on viendra vous revoir. C'est vrai qu'on espère une seule chose, et on va en parler avec vous, Marie-Christine, depuis Vichy, parce que vous tenez aussi un restaurant sur place. Bonsoir à vous. On espère une chose, c'est que le restaurant, la convivialité, ce savoir-vivre à la française, reprenne le pas et reprenne effectivement, on reprenne le pouvoir sur les événements que nous venons de traverser.
Oui, alors nous sommes très inquiets, bien évidemment, terriblement inquiets. Le plan de relance est ambitieux. Je crois que les pouvoirs publics ont pris conscience d'abord du poids économique du tourisme en France et puis du drame absolu dans lequel se trouve toute la profession au sens large, quels que soient les métiers. Au-delà des questions qui concernent la mise en œuvre de l'accueil des clients, il faut garder ce côté convivial et ne pas avoir l'impression d'aller manger dans un hôpital. L'autre question qui nous préoccupe, c'est la fréquentation touristique. Alors, nous avons la chance à Vichy de vivre dans une ville merveilleuse, avec des hectares de parcs, des kilomètres de pistes cyclables, un plan d'eau, donc une ville nature qui va pouvoir accueillir les touristes. C'est une destination sûre avec pléthore d'activités. On est beaucoup suivi par la mairie, par l'office du tourisme et toutes les instances. Est-ce que les clients seront au rendez-vous à Vichy? Est-ce qu'ils seront au rendez-vous partout en France? Et en dernier lieu, est-ce qu'ils seront au rendez-vous chez nous à la table d'Antoine?
Eh oui, c'est ça, les restaurations, la restauration, c'est évidemment, merci beaucoup Marie-Christine à Vichy. On espère bien évidemment que tout cela va reprendre progressivement, Philippe Gloguen, Alain Capestan, Nicolas Daillot, mais sûrement en espérant effectivement que il y ait ce, parce que ça fait partie de nos fondamentaux, c'est ce que je disais à l'instant, c'est notre capital aussi, la restauration, l'hôtellerie, la qualité aussi, ce que l'on propose, les prestations. Nicolas Daillot, de l'hôtellerie de plein air comme de l'hôtellerie évidemment plus chic. Il y a tous les types d'hôtellerie en France. On a une palette extrêmement complète et on sait aussi se réinventer.
Complètement. Alors, se réinventer, je ne sais pas si on va se réinventer, nous, les campings, à l'issue de cette année très particulière. Il est clair qu'il faut se préparer, et en ça, on peut saluer quand même, en ce qui nous concerne, le plan qui a été mis en place va nous permettre de passer le cap. On imagine même, peut-être, de se préparer, non pas une année blanche, parce que espérons que ça n'arrive pas, mais si ça devait arriver, le plan nous permettra sans doute de passer le cap pour la plupart des campings, même si malheureusement, je crains, si vraiment c'était très dur, qu'on en perde quelques-uns. Néanmoins, les fondamentaux sont là pour nous semble-t-il, parce qu'on est dans la campagne, parce que les gens vont avoir besoin de grand air, c'est parce ça. Que les gens vont avoir besoin de valeurs simples, et c'est ce que nous proposons, nous qui sommes au cœur des territoires ruraux, de la montagne, du littoral, etc. Je pense néanmoins qu'on a, en ce qui nous concerne, matière peut-être à sauver une partie des meubles, parce que cette année, ça va être très quand même tourné sur la clientèle française. Or, les Français privilégient plus le littoral que les Européens qui viennent dans les campings. Alors, on est inquiet d'ailleurs pour certains campings de l'intérieur qui ont beaucoup d'étrangers parmi leur clientèle et qui, eux, auront peut-être du mal à compenser par des Français nouveaux qui n'ont pas l'habitude d'y venir. La clientèle de proximité, qui va peut-être être beaucoup plus importante que prévu d'habitude, est déjà présente dans les campings d'une année sur l'autre. Donc peut-être que c'est une recette habituelle que nous avons. Alors sans doute que 100 km, c'est beaucoup trop étroit. On est bien d'accord, il faudra 300-400 km au moins pour arriver à butiner suffisamment large pour arriver à s'en sortir. Et puis on risque d'avoir le même phénomène que pour les restaurateurs. Cette année, je pense que les clients ne vont peut-être pas fréquenter le restaurant du camping, mais vont peut-être plutôt préférer manger dans la caravane ou dans le mobil-home.
C'est ça. Alors, et du coup, c'est là où je me tourne vers vous, Alain Capestan, aussi, parce que vous, c'est voyageurs du monde, bien sûr, mais aussi cette crise a révélé évidemment le souci un peu plus prégnant aussi de notre planète, de sa fragilité. Et ça, c'est peut-être là où on peut se réinventer. Je parle de ça parce que évidemment, on nous a prédit de toute façon ces catastrophes planétaires. Donc, comment on modifie aussi nos voyages, nos vacances au regard de cela?
Il est certain que dans l'avenir, le comportement du consommateur qui veut voyager va s'en trouver modifié. C'est à peu près certain. On s'attend probablement à des voyages plus longs, avec des voyages probablement un peu plus chers, ne serait-ce que parce que toutes ces mesures liées à la distanciation sociale, dans les aéroports, dans les avions, vont avoir un coût, et donc il sera nécessairement supporté dans le prix du voyage. Ce qui veut dire aussi probablement des voyages en quantité moins nombreuse, mais en qualité supérieure, et puis aussi en durée supérieure. Et donc, globalement, finalement, une forme de surtourisme qui va s'en trouver amoindrie et réduite, ne serait-ce que par la réduction des volumes.
Mais bien sûr. Merci alors, beaucoup, après, messieurs. Sûr... Oui, rapidement.
Oui, non, excusez-moi. Non, je disais, bien sûr, ça dépend bien sûr essentiellement du niveau d'activité. Ça veut dire que les voyagistes vont s'en trouver impactés, mais de manière extrêmement différente selon la nature de leur métier, bien sûr.
Évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Philippe Gloguen, fondateur du Guide du Routard, qui nous propose donc de multiples guides cette année, particulièrement sur la France et toutes ces richesses que vous pourrez aller découvrir maintenant qu'on sait qu'on pourra partir en juillet et en août, mais on ne sait pas encore si ce sera au-delà des 100 km. Merci Alain Capestan et Nicolas Daillot également de m'avoir accompagné dans cette dernière demi-heure. Les applaudissements qu'on écoute chaque soir avec plaisir, ils résonnent encore ce soir. On les encourage à durer le plus longtemps possible pour les soignants. Après 20h, Émilie Mazoyer aux commandes de musique avec ce soir le concert de trio, Concert sous les étoiles. C'était en 2009, vous vous souvenez ? C'est l'hymne de nos campagnes. L'info dans une seconde. Et nous, on se retrouve demain soir, 18h-20h, pour écouter Le Monde Changé. Belle soirée.
C'était Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 20h.